Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean, texte de la liturgie catholique pour le cinquième dimanche de Pâques. Jésus dit à ses disciples :
Que votre cœur ne soit pas troublé. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit que je vais vous préparer une place ? Lorsque je serai allé vous la préparer, je viens à nouveau et je vous prendrai avec moi. Ainsi, là où je suis, vous serez vous aussi. Et où je vais, vous en connaissez le chemin.
Thomas lui dit,
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin ?»
Jésus lui dit,
« Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie. » Personne ne va vers le Père, sinon par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Philippe dit à Jésus,
« Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. »
Jésus lui dit,
« Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps. Et tu ne me connais pas ? Celui qui m'a vu, celui-là a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? N'as-tu pas foi que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais en moi, le Père demeure et accomplit ses œuvres. Ayez foi en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Au moins, ayez foi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui a foi en moi, celui-là fera aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que moi je vais auprès du Père. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Qui m'a vu a vu le Père, et bien voilà une parole audacieuse et qui serait sans doute prise à la légère si elle ne venait pas de Jésus. On ne peut donc écouter ces propos de Jésus sur son Père sans essayer de pénétrer un peu le mystère de son être personnel.
Bien, Georges, il serait bon de préciser à quel moment Jésus a-t-il tenu ces propos?
Eh bien, ils font partie du discours d'adieu de Jésus à ses disciples tel qu'il nous est rapporté dans le récit de Jean. Ce discours couvre 5 chapitres, et certains experts pensent qu'il y a là un assemblage de plusieurs versions des propos que Jésus a tenus lors du dernier repas. L'argumentation qui se trouve dans ce passage, qui est le nôtre aujourd'hui, apparaît peut-être au premier abord un peu embrouillée. Comme à son habitude, Jean va faire progresser la pensée à l'aide des questions qui sont posées par les interlocuteurs. Thomas, Philippe manifestent leur incompréhension et cela permet à Jésus de préciser, d'approfondir sa pensée.
Comment résumer les propos de Jésus ?
Eh bien, Jésus part du trouble des disciples. Et ce mot d'être troublé, là, se trouve déjà par 3 fois dans le récit de Jean à propos de Jésus lui-même. La première fois, c'est, on s'en souvient peut-être, lors de la venue de Jésus au tombeau de Lazare. Il est troublé, il est révolté dans son être profond. La deuxième fois, c'est devant la proximité de l'heure de sa mort. « Tout mon être se trouble, » écrit Jean. « Que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. » Et la troisième fois, c'est lors de l'annonce qu'un de ses disciples va le livrer. Et ici, il s'agit non pas du trouble de Jésus, mais du trouble des disciples. Et ce trouble peut-être provient de ce que Jésus vient de prédire, le reniement de Pierre. Ce sentiment de désarroi, de détresse qu'exprime ce verbe troublé semble donc lié non seulement à la mort prochaine, mais aux circonstances de la mort, c'est-à-dire à la trahison et au reniement. Le développement du propos de Jésus sera donc lié lui aussi à sa mort et à celle de ses disciples. Il va certes leur préparer une place auprès du Père, mais le texte va nous dire qu'il faudra que les disciples, pour cela, prennent le chemin que Jésus a pris.
Je vais vous préparer une place.
Oui, comment comprendre cette expression? Eh bien, dans le judaïsme de l'époque de Jésus, le ciel, on l'imaginait un peu comme un ensemble de demeures où les êtres humains parviendront à la fin des temps. Dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, on va retrouver cette même idée.
Le Seigneur descendra du ciel, et les morts ressusciteront, et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur, et nous serons pour toujours avec lui. Réconfortez-vous les uns les autres par cet enseignement.
Oui, au-delà des images, il faut aller à la réalité qui est décrite, une réalité d'ailleurs qui, comme le dit Paul, doit nous réconforter, et cette réalité, c'est la communion avec le Seigneur Jésus. Ainsi donc, malgré les faiblesses, malgré les reniements de certains, les disciples doivent mettre leur foi, leur confiance totale en Jésus qui va préparer à ses amis une place auprès de Dieu. Car, il nous le dit, il y a demeure en Dieu pour la multitude. Et lorsque Jésus aura rempli cette tâche de préparer la place, il vient à nouveau pour prendre les disciples avec lui. Peut-être que on aura noté que le verbe « venir à nouveau » est au présent, sans doute pour souligner que ce sera comme une espèce d'action permanente de Jésus tout au long de l'histoire.
Lorsque je serai, allez-vous la préparer, je viens à nouveau et je vous prendrai avec moi.
Oui, Jésus réitère ici l'assurance qu'il a déjà donnée plus tôt. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera mon serviteur. La communion entre le maître, entre le rabbi Jésus et son disciple, n'est donc pas seulement quelque chose de temporaire pour cette vie, elle va demeurer au-delà de la mort. Et dans la grande prière qui termine le repas, Jésus va reprendre cela. Père, je veux que là où je suis, mes disciples soient aussi avec moi. Mais ce moment de la pleine et définitive communion n'est pas encore arrivé.
Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, maintenant, je le dis.
Là où je vais, vous ne pouvez venir. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est à la confiance naïve de Pierre que nous allons obtenir l'explicitation de cette phrase.
Seigneur, où vas-tu?
Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard.
Seigneur, lui répond Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre à l'instant? Je me dessaisirai de ma vie pour toi.
Te dessaisir de ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, trois fois tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. Alors si la communion maître-disciple est envisagée comme devant durer au-delà de la mort, toujours, cela dépend pourtant de la façon dont le disciple va vivre sa mort. Il devra suivre pour cela le même chemin que Jésus emprunte. Et c'est peut-être là la raison profonde du trouble des disciples. C'est qu'ils vont être arrachés à leur maître parce qu'ils ne se sentent pas capables de le suivre sur le chemin de la croix. Alors face à cette détresse, Jésus veut pourtant leur proposer la confiance absolue, « Ayez foi en Dieu, ayez foi aussi en moi. » Pour Jésus donc, rien n'est jamais définitivement perdu. L'amour de Jésus, du Maître pour ses disciples, comme l'amour de Dieu Père, a un pouvoir de pardon et de conversion, et c'est ce pouvoir de pardon et de conversion de Jésus qui devra garder le disciple dans l'espérance confiante, là où je suis, vous serez vous aussi.
Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin?
Comme c'est l'habitude chez Jean, c'est cette demande de Thomas qui va provoquer l'approfondissement de la pensée de Jésus. En effet, Thomas sait bien où s'en va Jésus. Quelques jours plus tôt, il a dit « Allons nous aussi et nous mourrons avec lui ». Il n'ignore donc pas le chemin actuel et ce chemin actuel qui passe par la mort. Mais Jésus va répondre par une formule frappante. « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Alors comment comprendre cela? Bien, pour tout juif, le chemin de la vie, de la vraie vie, se trouve dans la Torah. Et qu'est-ce que c'est que la Torah? Ce que nous traduisons souvent par le mot « loi », mais c'est peut-être impropre. La Torah est en effet l'enseignement donné par Dieu. On pourrait peut-être citer ici ce qu'écrit Jacques Lève dans la prière à l'école des grands priants.
À Moïse, Dieu donne les matériaux pour construire la route. Il lui donne la Torah, ce que nous traduisons mal par la loi. Car la Torah en hébreu, dit le grand écrivain juif Néer, ce n'est pas l'ordre, mais l'orientation. Pas la loi, mais la voie, la route sur laquelle est possible un cheminement commun. Le mot « Torah » évoque donc un chemin, une route à suivre.
Et Jésus se présente donc comme cette route à suivre, ce chemin à suivre, cette Torah vivante, la Torah faite vie humaine. Et il va illustrer cela en disant que ses paroles, à lui, sont les paroles mêmes du Père.
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais en moi, le Père demeure et accomplit ses œuvres.
De même que la Torah est le chemin qui mène à Dieu, ainsi Jésus est le chemin qui mène au Père. Et si Jésus peut se dire le chemin de la vraie vie, c'est parce que tout son être, tout son agir, est l'agir même de Dieu. Philippe voudrait donc bien être lui-même comme Jésus, quelqu'un qui agit comme le Père. Alors il demande à Jésus de lui faire voir le Père. Mais toute la Bible a répété que l'être humain ne peut pas voir Dieu. On peut peut-être aussi penser que c'est vrai pour l'humanité de Jésus. D'ailleurs, Jésus ne répond pas qu'il voit le Père, mais il dit que celui qui le voit, lui, voit le Père.
Comment comprendre cela? Jésus n'est pas Dieu le Père qui s'est fait homme, comme certains chrétiens le pensent confusément.
Non, effectivement, Jésus, ce n'est pas le Père. Jésus est le Fils. Et c'est en tant qu'il est parfaitement Fils qu'il peut faire voir qui est le Père. Citons le prologue de Jean où l'évangéliste livre justement sa réflexion sur l'identité de Jésus.
La parole s'est faite vie humaine et nous avons contemplé sa gloire. Puissance d'amour pleine de gratuité et de vérité comme celle d'un fils unique d'auprès du Père.
L'expression qui se trouve là, fils unique, est propre à Jean dans l'évangile. Elle traduit cette intimité parfaite qu'il y a entre Jésus et le Père divin. Nous allons citer un très beau livre de Donatien Mola, un livre qui s'intitule « Saint Jean, maître spirituel ». Dans ce livre, Mola commente ainsi.
C'est une relation vitale de tout son être à Dieu comme son Père, une mystérieuse symbiose qu'il traduit en termes d'union, de présence totale et constante de l'un à l'autre et de l'un dans l'autre, de connaissance mutuelle, de regard réciproque et sans ombre, de communion absolue de pensée et de volonté d'échange sans réserve. C'est un mystère d'unité d'amour à la racine de son existence d'homme, auquel il correspond par une volonté de radicale dépendance et d'absolue fidélité à l'autre.
Eh bien, à notre époque où on voit fleurir des chemins nombreux pour aller vers Dieu, où on nomme Dieu énergie, source créatrice, lumière, conscience cosmique. Pour le disciple de Jésus, eh bien, le maître a tracé un chemin bien précis. Dieu, avant d'être créateur, Dieu, avant d'être juge, Dieu, avant tout, Dieu est Père. Et c'est parce que Dieu est Père que c'est la vie filiale qui va nous le révéler. Jésus dira, qui me voit, voit le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. qu'est-ce que c'est qu'être ? Être, au sens le plus profond de ce mot, c'est être engendré. En effet, personne, aucune créature, ne tient son être d'elle-même. Elle le reçoit. Donnons quelques exemples. Nous sommes déjà fils et filles de la terre, parce que nous recevons de l'univers l'eau, l'air, le soleil qui nous font vivre. Nous sommes fils et filles de l'humanité, parce que nous recevons des autres humains la parole, la pensée, l'amour. Eh bien, nous sommes aussi fils et filles de Dieu, parce que c'est de lui que nous recevons la pensée, l'esprit, l'amour, avec un grand A. Et cet engendrement, eh bien, il ne peut se faire que dans une rencontre librement choisie. On peut illustrer cela peut-être avec la façon dont parlent les penseurs personnalistes, qui disent qu'on ne devient un « je », c'est-à-dire une personne et pas seulement un individu, on ne devient un « je » qu'en relation avec quelqu'un qui est accueilli gratuitement par nous comme un « tu ». Citons le philosophe juif Martin Buber.
« Entre lui et toi, il y a réciprocité de don. Tu lui dis « tu » et tu donnes à lui. Il te dit « tu » et il se donne à toi. »
Dans la relation humaine, c'est en devenant fils, fille, qu'on fait devenir pleinement l'autre, comme père ou mère. La relation est réciproque. On ne peut être père et mère de quelqu'un que par son acceptation à être fils et fille. Jésus utilise sans doute un proverbe qui se disait de son temps des paternités humaines lorsqu'il dit « Nul ne connaît le fils sinon le père » et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Eh bien, nous-mêmes, à la suite de Jésus, c'est en devenant fils et filles que nous allons découvrir qui est Dieu. En appliquant ce proverbe à sa relation propre au Père, Jésus sait qu'il a pleinement vécu dans sa vie d'homme cette relation au Père divin, et qu'il est ainsi le Fils unique qui peut révéler le Père. Il dira « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Jésus ne donne pas un enseignement sur l'existence de l'être suprême. Il nous ouvre bien plus la voie qui mène à vivre du Père en faisant de nous des filles et des fils du Père qui est Dieu, car il le dit souvent, il n'y a qu'un être qui soit vraiment Père, et cet être, c'est Dieu.
N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul, le Père du ciel. Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas.
Eh bien, c'est une réponse un peu étonnante que Jésus va faire à Philippe. Philippe qui lui demande « Montre-nous le Père ». Nous nous serions attendus à ce que Jésus s'étonne de leur ignorance du Père. Depuis que je vous parle du Père, vous devriez le connaître. Mais Jésus ne s'étonne pas de cela, il s'étonne de ce que ses disciples ne le connaissent pas, lui, Jésus, leur rabbi. Philippe, tu ne me connais pas. Alors comment comprendre cela? Mais peut-être dans le sens que les disciples n'ont pas vraiment compris le sens profond de la vie de leur maître. Au matin de Pâques, Jésus dira aux deux disciples d'Emmaüs,
« Esprit sans intelligence et lents à croire, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans la lumière de l'amour ?»
Philippe, Thomas, ne sont-ils pas, eux aussi, étrangers à la démarche de Jésus, esprit sans intelligence, lents à croire, qu'il fallait qu'ils choisissent de marcher vers la croix? La communion entre le maître et son disciple, en effet, pour Jésus n'est pas d'abord une question de sentiment affectif, mais une question d'accord spirituel sur la manière d'aimer, manière d'aimer qui est une manière divine, qui est celle du Père. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donner sa vie, qu'est-ce que cela signifie? Oh, bien sûr, ça peut être de mourir pour les autres, mais c'est une mort qui exprime un amour sans condition, un amour gratuit. Et cette mort, j'allais dire, elle est déjà préparée par toute l'existence. Donner sa vie, Jésus nous a dit que c'est faire 2000 pas avec celui qui nous oblige à en faire 1000. C'est donner son manteau à celui qui prend notre tunique. C'est tendre l'autre joue à qui nous frappe. C'est ne pas résister aux méchants. C'est aller jusqu'au bout de l'amour. Et ce bout de l'amour est le pardon. Oui, donner sa vie ne commence pas forcément à la croix. C'est à travers son existence quotidienne la plus simple que Jésus vit de l'amour du Père, de l'amour de Dieu, qu'il traduit cet amour de Dieu, qu'il le réalise au sens qu'il le rend réel, et qu'en réalisant cet amour de Dieu, il rend réel la présence même du Père. Si on pardonne l'expression, on pourrait dire Jésus fait Dieu. Dieu, on pourrait dire, c'est comme Jésus a vécu. Le chemin qui mène au Père, c'est donc le chemin qu'a pris Jésus, chemin de l'amour vrai, un chemin qui passe par le don de sa vie dans un esprit d'amour total et absolu. On ne connaît Jésus qu'en faisant cet amour vrai. Oui, Jésus a répondu à Nicodème, « Qui fait la vérité vient à la lumière. » Et Jacques Leuve commente ainsi.
« Un faire, pas une connaissance. » Un fer toujours pauvre, infirme, hésitant, mais éclairé par une parole qui précède. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Là est le fer de Dieu, un amour manifesté, le premier.
Dieu a donné son Fils unique, Dieu donne son Fils unique, et il le fait lorsque, bien sûr, celui-ci se donne librement sur la croix. Mais il le fait aussi lorsque chacun de ses fils, chacune de ses filles, va vivre la vraie bonté et le pardon. Oh, bien sûr, ce n'est pas facile, mais pour emprunter réellement le chemin qui mène au Père, Jésus nous dit que nous pouvons accueillir la force de l'Esprit du Père et que seul cet Esprit nous aidera à suivre vraiment le chemin de l'amour en faisant ce que fait Jésus.
Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Au moins, croyez à cause des actes que je pose.
Oui, Jésus va insister, si on peut dire, auprès de ses disciples pour qu'ils lui fassent confiance à cause de ces gestes concrets d'amour vrai qu'il pose et qui sont les gestes à la manière de Dieu. Certes, dans toute la Bible, il nous est dit que Dieu ne se laisse voir qu'à travers sa parole et ses œuvres. Eh bien, Jésus nous dit que la parole et les œuvres du Père sont accomplies maintenant parfaitement en lui, et qu'il est ainsi celui qui fait voir le Père, celui qui mène au Père. Ce qui nous révèle Dieu, ce sont donc les œuvres d'amour et de miséricorde. Mais ce ne sera vrai que dans la mesure où nous les vivrons nous-mêmes concrètement. Illustrons cela par une pensée de l'abbé Pierre.
N'oublie jamais cette joie, car tu viens de recevoir le don le plus parfait qui puisse exister. Tu viens de recevoir le don de la sagesse, le don de savourer, de goûter, comme c'est bon de s'être donné du mal pour que d'autres aient moins mal, comme c'est bon d'avoir aimé. À ce moment-là, tu as rencontré Dieu. Le professeur de théologie le plus savant du monde, qui n'aurait jamais eu l'occasion de risquer d'aller aimer en partageant la souffrance d'un autre pour que celui-ci souffre moins, ne connaît pas Dieu.
Oui, le fait de croire en Jésus, de vivre comme lui, d'agir comme lui, nous fait poser des actes semblables aux siens. Et Jésus aura même l'audace de nous dire
« Celui qui a foi en moi, celui-là fera aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que moi je vais au Père, auprès du Père. »
Il ne s'agit probablement pas, dans ce que dit Jésus, de prodiges plus spectaculaires que les disciples pourront accomplir. D'ailleurs, ailleurs dans l'Évangile, après avoir guéri un paralytique, Jésus annonce aussi des œuvres plus grandes.
Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore. Comme le Père relève les morts, le Fils lui aussi fait vivre qui il veut.
Pleinement uni au Père dans la vie éternelle, le Fils donnera à ses disciples de continuer son œuvre de vie, et cette fois en s'adressant non plus seulement aux Juifs, mais aux humains de toutes les nations, pour qu'ils puissent vivre de cette vie divine d'amour qui est vie d'éternité.
Seigneur, tu le sais, notre société ne va pas bien. L'argent que tu nous demandes de ne pas adorer mène le monde. Taux d'intérêt et spéculation font la une de l'information. Et le chômage continue de monter. Et les jeunes, de plus en plus jeunes, sont désespérés devant un avenir bouché. En venant parmi nous, tu redonnes à l'humain la priorité, en nous disant « Qui me voit, voit le Père ». Tu ouvres devant nous un autre horizon à l'histoire humaine. Tu enracines notre espérance, car l'assurance de te rejoindre près du Père se fonde sur notre vie d'aujourd'hui renouvelée déjà par ta présence. Que cette espérance, Seigneur, touche le cœur de nos frères, de nos sœurs et surtout des jeunes. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.